Extrait des chroniques du hors-temps, l'explosion technologique trisolarienne. Quand Trisolaris avait-elle connu une telle explosion technologique? C'était une énigme. Certains experts estimaient que cette accélération avait commencé avant même la grande crise, tandis que d'autres avançaient que la technologie trisolarienne n'avait véritablement connu un tel bond qu'à l'ère de la dissuasion. Tous s'entendaient cependant sur les deux facteurs qui avaient contribué à ce progrès soudain. Tout d'abord, la civilisation terrienne avait exercé une influence colossale sur le monde trisolarien. Sur ce point, les trisolariens n'avaient probablement pas menti. Depuis l'arrivée du premier intellectron sur Terre, l'importation massive d'éléments issus de la culture humaine avait provoqué des bouleversements profonds au sein du monde trisolarien, et la population avait commencé à faire sienne certaines valeurs humaines. Les trisolariens avaient pris conscience que les régimes autoritaires établis en réaction aux ères chaotiques étaient en réalité des barrières à la science. La liberté de penser fut donc encouragée et les droits individuels mieux respectés. Ces changements avaient peut-être amorcé dans ce monde lointain des mouvements semblables à ceux des Lumières ou de la Renaissance, lesquels avaient conduit à un bond technologique. Cela aurait dû être un épisode glorieux de l'histoire trisolarienne, mais l'humanité ne connaissait aucun détail concret sur son processus. L'autre facteur avancé n'était qu'une hypothèse. Les autres intellectrons envoyés en mission d'exploration dans l'univers n'avaient pas fait chou blanc, comme le prétendaient les trisolariens. Avant de pénétrer dans des zones aveugles, ils avaient pu sonder d'autres mondes civilisés. Si c'était le cas, on pouvait imaginer que le monde trisolarien ne se soit pas contenté de glaner des connaissances technologiques auprès de ces civilisations hypothétiques, mais aussi d'autres informations primordiales au sujet de la forêt sombre. Aussi, dans tous les domaines, Trisolaris en savait beaucoup, beaucoup plus que la Terre. Intellectra se montra pour la première fois depuis la fin de la dissuasion. Vêtu de son treillis beige, son sabre sur le dos, elle proclama au monde que la deuxième flotte trisolarienne arriverait dans 4 ans pour achever la conquête totale du système solaire. Trisolaris adoptait aujourd'hui à l'égard de l'humanité une autre politique que celle envisagée lors de la première crise. Intellectra assura que son monde n'envisageait plus d'anéantir les humains, mais de les parquer dans des réserves qui seraient établies respectivement sur le continent australien et sur un tiers du territoire martien. Cette directive permettrait d'assurer un espace de survie minimal pour la civilisation humaine. Intellectra indiqua qu'afin de préparer l'occupation à venir, les humains devaient immédiatement commencer leur migration vers les réserves. Pour mettre en application ce qu'elle appelait la dédissuasion et éradiquer définitivement la menace de la forêt sombre, l'humanité devait être entièrement désarmée et la migration être nue. C'est-à-dire qu'aucune installation et aucun équipement lourd ne pouvait être emporté dans les réserves. Enfin, l'exode devrait avoir été achevé en une année. Les logements actuels sur Mars ne pouvaient accueillir que 3 millions de personnes. L'Australie deviendrait donc le principal foyer de migration. Mais malgré cette annonce, les humains se laissèrent bercer par l'illusion qu'ils bénéficieraient encore au moins d'une génération de paix, si bien qu'aucune nation ne réagit à l'annonce d'Intellectra et nul n'entreprit d'émigrer sur l'heure en Australie. 5 jours après ce que l'histoire retiendrait comme « la proclamation des réserves », l'une des 5 gouttelettes qui stationnait jusque-là à l'intérieur de l'atmosphère terrestre attaqua 3 grandes cités d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Le but de ces attaques n'était pas de détruire les villes, mais de terroriser leurs habitants. La gouttelette rasa les immenses forêts urbaines, percutant tous les bâtiments suspendus qui se trouvaient sur son passage. Ceux-ci prirent feu, puis ils chutèrent de plusieurs centaines de mètres comme des fruits trop mûrs. Cet épisode causa la mort de 300 000 habitants. Ce fut la perte humaine la plus tragique depuis l'ultime bataille. Les gens comprirent enfin que, devant les gouttelettes, ils étaient aussi fragiles que des œufs coincés sous un rocher. Peu importait la taille de la ville ou du bâtiment, ils étaient sans défense. S'ils le voulaient, les trisolariens pouvaient démolir n'importe quelle cité et faire peu à peu de la surface de la terre un vaste champ de ruines. En réalité, cette infériorité était moins flagrante que par le passé. Les humains avaient compris depuis longtemps que la seule manière de se protéger contre les gouttelettes était d'utiliser des matériaux faisant eux-mêmes appel à l'interaction forte. Avant le terme de la dissuasion, des instituts de recherche à la surface et dans l'espace étaient déjà parvenus à créer en laboratoire une faible quantité de ces matériaux ultra-résistants. Seulement, ils étaient encore très loin de pouvoir en produire à grande échelle et à un niveau exploitable. S'ils avaient pu disposer de 10 années supplémentaires, ils auraient pu envisager de produire des MIS, matériaux à interaction forte à la chaîne, et en dépit du système de propulsion des gouttelettes qui dépassait en bien des points tout ce que l'humanité était en mesure de développer, il leur aurait été possible d'envoyer contre elles des missiles de MIS téléguidés. Grâce à leur avantage numérique, les missiles auraient peut-être pu venir à bout des gouttelettes. Ou bien ils auraient pu utiliser des MIS pour bâtir des écrans de protection. Même si les gouttelettes avaient osé attaquer ces boucliers, elles seraient devenues des obus à usage unique. Mais aucun de ces projets ne se concrétiserait jamais. Intellectra fit une nouvelle déclaration, dans laquelle elle expliqua que si Trisolaris avait revu son projet politique d'extermination de la civilisation humaine, c'était par amour et par respect pour ses accomplissements. Une fois la migration vers l'Australie terminée, les humains connaîtraient certainement une période difficile, mais elle ne durerait que 3 ou 4 ans. Après l'arrivée de la flotte, les nouveaux occupants auraient les moyens d'offrir aux réfugiés une vie plus décente. Ils les aideraient à construire davantage de logements sur Mars, de façon que 5 ans après leur venue, une émigration de masse puisse être organisée vers l'espace. Ce processus serait achevé dans 15 années et l'humanité bénéficierait alors d'un espace de vie appréciable. Commencerait dans le système solaire une ère de cohabitation pacifique entre les 2 civilisations. Mais tout ce dénouement était soumis à une condition préalable, le bon déroulé de la première migration humaine vers l'Australie. Si le transfert des populations ne débutait pas sur le champ, les gouttelettes continueraient à attaquer les villes. Passé le délai 1 an, tout humain qui se trouverait hors des réserves serait soupçonné d'invasion du territoire trisolarien et aussitôt exterminé. Bien entendu, si les humains quittaient les villes et se disséminaient sur tous les continents, il serait ardu pour les 5 gouttelettes de les traquer un par un, mais la flotte trisolarienne qui arriverait dans 4 ans n'aurait sans doute aucun mal à terminer le travail. L'humanité doit son salut au rayonnement de sa culture. J'espère que vous saurez en être digne, termina Intellectra. Et ainsi commença la grande migration vers l'Australie.